Merci de vous asseoir. On va commencer immédiatement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Donc, l'une des dernières tables rondes de ce forum. Je ferai quelques échos au thème. Claude Lefort, hier, qui nous rappelle que la généalogie de la démocratie passe par des villes, et pas nécessairement Athènes, mais passe par Florence et Amsterdam. C'était extrêmement intéressant à rappeler. La table ronde précédente, je crois, où on était au cœur de l'urbain pour parler des rapports un peu dans le monde mondialisé de la démocratie participative et représentative. Et je rappelle aussi que dans la conférence de Lefort, ce qui était extrêmement intéressant, c'était de rappeler qu'il y a une démocratie régime, qu'il y a une démocratie forme, et que la mise en forme de la démocratie, ça passe par des espaces qui sont plus ou moins pertinents pour pouvoir justement éprouver, je ne dis même pas expérimenter, la démocratie. Et j'écoutais d'une oreille Rocard tout à l'heure, qui disait « arrêtons tous ces débats de pouvoir, qui a le pouvoir à tel niveau, telle échelle ?» Non, il s'agirait peut-être de dégager l'espace pertinent, favorisant une expérience démocratique. Alors, on ne va pas revenir à Rousseau et tout ça, pour savoir s'il faut être 500, 1000, s'il faut 20 km carrés ou 300, il y a plein de débats là-dessus. Je voudrais simplement d'un mot, je serai rapide, parce que j'aurais profité un peu de la présence des deux amis qui sont là pour ouvrir des débats. Oui, excusez-moi, parce que je dis que je parle trop fort d'habitude. Et donc, profiter de la présence des deux amis pour avancer sur des réflexions qui associent bien, je dirais, réflexion et travail concret. On a affaire à deux acteurs, architectes, urbanistes tous les deux. Et Laurent Davzy étant excusé, vous l'avez compris, j'en dirai un mot de ces propos tout à l'heure. Donc on va essayer de profiter pour avancer sur les questions liées à l'urbanisme, l'habitat, de manière assez précise. Hein. J'aurais simplement rappelé l'actualité de toutes les questions qui nous intéressent, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle la question urbaine, la nouvelle question urbaine, tout à fait décisive, et qui passe pas uniquement par le fait métropolitain, comme on l'a dit tout à l'heure. Je rappelle quand même que la crise, la fameuse crise qui réunit peut-être beaucoup d'entre nous ici, crise des subprimes, elle est quand même liée à une bulle qui affecte quoi ? L'immobilier. Donc la question de la politique du logement, au-delà d'un débat sur la réputation des territoires, c'est quand même quelque chose de très important. Bulle immobilière, je rappelle que le logement, et c'est toujours le cas, en tout cas en centre parisien, le logement, c'est pas le problème du logement en tant que tel, c'est une valeur, c'est une spéculation, hein. Donc on est aussi dans ce contexte-là. Donc la bulle immobilière, elle n'intervient pas par hasard au-delà du débat sur crédit-consommation. Il y a tout un débat sur le fait métropolitain, on y reviendra tout à l'heure, ça a été évoqué à l'instant sur les grandes communautés urbaines, etc. Il y a les débats sur le Grand Paris, David Mangin, on en parlera certainement, mais ce n'est pas le but de l'opération ici, surtout profitons du fait qu'on n'est pas à Paris pour ne pas parler automatiquement de Paris. Je voulais justement dire quand même qu'il faut quand même bien savoir, quelle que soit la qualité de tous les travaux qui ont été faits dans le cadre du Grand Paris, je ne t'interviens pas là-dessus, devant quelqu'un qui a été acteur à part entière, je voudrais quand même rappeler que la réflexion sur le devenir métropolitain, il est bien plus en avance dans un certain nombre de villes de province. Je pense toujours un peu à Nantes-Saint-Nazaire, c'est un exemple très intéressant, où il y a même une revue qui réfléchit sur le devenir métropolitain. Je dis ça pour qu'on ne retombe pas tout de suite dans le truc Paris, la province, etc. Donc réflexion sur le fait métropolitain, les impératifs écologiques, j'ai pas besoin d'y insister, Grenelle de l'environnement. On peut discuter de pas mal de choses. Il y a un petit livre qu'on lit dans toutes les écoles d'architecture, HQE de Ricciotti, un architecte un peu iconoclaste, mais qui rappelle aussi que le débat sur les normes pour travailler comme constructeur, on a ici affaire à des constructeurs, c'est pas sans importance. Donc les impératifs écologiques qui ont été rappelés, les impératifs écologiques, ça renvoie à une question centrale, anthropologique, c'est qu'est-ce qu'habiter ? Il faut quand même rappeler qu'avant de voir les grands débats sur la démocratie collective, habiter est un invariant anthropologique qu'on n'habite pas n'importe comment, n'importe où. Et ça a été, Yves Cabanne pourrait revenir là-dessus. Il y a aujourd'hui une majorité de gens qui n'habitent pas. Il faut quand même ne jamais oublier ça, qui sont au sens strict déterritorialisés. Ce n'est pas le but. Nous, on va rester dans le contexte français, européen, je dirais. Ne confondons pas tout, même si on va revenir à une réflexion plus large sur l'urbanisme. Autre actualité, elle est toujours évoquée, les problèmes de gouvernance, limites, les limites, bien entendu, bah, c'était évoqué par le représentant de la démocratie participative, le représentant de la région. Contrairement à lui, je pense que le débat sur la commission Balladur, justement, il a été esquivé par les politiques, il n'a pas eu lieu du tout. Alors, il faut aussi, je pense qu'il y avait les éléments d'un débat, je ne dis pas même démocratique, mais de lever les questions, et ça n'a pas été fait du tout. Je ne dis pas que c'était bien ou mal, ces questions n'émergent pas. Pour quelles raisons ? C'est autre chose. Bon, quant au problème de l'expérience démocratique, elles ont été évoquées là. Simplement, n'oublions pas aujourd'hui que, quitte à parler de démocratie, il faut aussi distinguer des formes de pratiques urbaines, comme le fait, il était là d'ailleurs pour une autre table ronde, Philippe Esteb, un sociologue, dans un petit livre excellent qui s'appelle « Gouverner la ville mobile », où il montre très bien qu'il faut quand même distinguer le citoyen, c'est celui qui habite quelque part et qui vote. L'habitant, c'est celui qui habite quelque part mais ne vote pas. Vous ne votez pas dans des intercommunalités. Et l'usager, c'est celui qui n'habite pas mais qui va profiter des services en passant dans une ville. C'est très important d'arriver aussi à réfléchir sur ces problèmes, parce qu'on va trouver la question de la mobilité, sur ces problèmes de l'habiter, de l'urbanisme, sachant que tout le monde, d'une certaine manière, ne pratique pas les espaces urbains, Grenoble ou autres, avec les services, comme s'il était un local local. Et Esteb, par exemple, distingue deux formes de pratiques démocratiques en distinguant les régimes de centre-ville, où il trouve qu'il y a encore des formes de citoyenneté assez classiques, et les régimes, par exemple, périurbains, où il montre que les gens se regroupent sur des formes plus associatives, sur le mode de club. C'est à discuter, etc. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a des régimes démocratiques, c'est-à-dire des manières de s'associer, d'être ensemble, que l'on peut distinguer en fonction du type d'espace que l'on pratique. Et on pourrait continuer. Je voudrais juste rappeler d'un mot qu'on est dans un pays à état fort, ça a été dit, mais un état fort qui s'affaiblit de plus en plus. Le pouvoir des préfets, dont on a parlé tout à l'heure, est évident, mais Fernand Braudel distinguait toujours les régimes villes, Italie, les régimes État, la France. Je pense qu'aujourd'hui, on assiste, pour mille raisons, à un rééquilibrage ville-État, et que c'est ça qui est extrêmement intéressant à essayer de saisir. Et c'est d'ailleurs derrière le débat sur le Grand Paris. Donc, j'en profite pour évoquer, puisqu'il n'est pas là, la thèse qui donne un peu le titre, mais on va aller plus loin que ce titre, la thèse de Davzi, sur comment répartir la démocratie. Son livre s'appelle « La République et les territoires ». C'est un livre qui a été un peu explosif, dont on a beaucoup parlé, parce que tout simplement, il disait « c'est terminé le désert français hein, », c'est-à-dire il n'y a plus... la région centre, Paris, etc., et puis des provinces malheureuses économiquement, etc. Il montrait donc un rééquilibrage entre les régions, entre le centre et les diverses périphéries, sur le plan économique. Simplement, ce qui montrait aussi, et ce n'est pas sans lien avec les débats qu'on suivit après des décisions de Sarkozy sur le Grand Paris, ce qui montrait aussi, c'est que beaucoup de régions, surtout sud, ont rééquilibré, mais profitent énormément de la redistribution, c'est-à-dire de l'État-providence, de toutes les formes de redistribution, que ça passe effectivement par les subventions, RMI, retraite, aide à l'emploi, etc. Il rappelait ça, c'est pas pour dire qu'il y en a ceux qui, il y a ceux qui vivent avec des attelles et il y a les autres, mais c'est très important de bien voir que, en ce qui concerne les débats liés centre, autres régions, aujourd'hui, il y a un décalage, une discordance entre les lieux de la production, les lieux de la résidence, ça vaut pour Paris, les Parisiens, et donc un certain nombre de problèmes de cet ordre-là. Donc sa question, c'était, attention, il n'y a peut-être pas une revanche des villes sur... justement la région centre, c'est peut-être pas si simple, et essayons de voir comment on peut envisager des rééquilibrages économiques. Pour les remarques d'entrée, je m'arrêterai là, en rappelant donc simplement qu'on est un pays à culture urbaine extrêmement faible par rapport à l'Italie et tous les pays du Nord. C'est-à-dire que toutes les questions relatives à l'urbanisme, à l'architecture, sont des questions qui sont extrêmement peu intégrées dans toute notre éducation, dans l'enseignement, etc. Parce qu'effectivement, l'État a toujours perçu les autres territoires comme des prolégements de l'État central. Et donc, quitte à vouloir réinventer des espaces, il faut réfléchir à ça, à la faiblesse de notre culture urbaine, qui n'est pas sans peser sur les débats qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors, avant de cadrer le débat et de présenter nos amis, je voudrais simplement rappeler trois tendances lourdes qu'on a évoquées d'ailleurs tout au cours un peu de... Donc, partir du négatif. C'est-à-dire que la mondialisation, ce n'est pas qu'un problème économique, elle a des formes et des variables extrêmement diverses. La mondialisation, on la voit aussi sur les cartes, c'est-à-dire qu'elle reconfigure les territoires. On verra un peu comment, avec David Mangin, elle reconfigure les territoires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, réfléchir sur les lieux ne peut être fait que si on prend en compte d'abord les flux divers, c'est-à-dire, et pas uniquement les flux financiers, Hein, tous ces éléments qui font qu'on est dans un monde un peu aquatique, liquide. Et le problème, c'est justement refaire des espaces dans un monde où la pression des flux est très forte. Et quoi qu'il en soit de la crise, les flux, le monde liquide, il ne va pas disparaître. Et même les liquidités financières, comme disait très bien dans sa critique du marché financier Orléans hier. Donc je pense qu'il faut bien travailler cette idée que reprendre les questions de l'espace par le bas, je dirais, c'est pas réfléchir sur la mondialisation uniquement en parlant régulation par le haut, ce qu'il faut faire, mais que tout l'intérêt de nos débats, c'est qu'on va... Il n'y a pas besoin d'être écologiste, même si ça aide. Pour ça, c'est que de plus en plus, il va falloir penser à réinscrire un certain nombre de questions dans des espaces donnés. C'est ce que l'ensemble d'urbanisme, quand c'est par l'italien Magnaghi, que j'aime bien, appelle freiner la mondialisation par le bas. Et ça, ça ne peut se faire que dans des espaces donnés. Premier point, les flux... Alors David va y revenir, plus fort que les lieux, il va le montrer mieux que je le dis là abstraitement. Deuxième tendance très lourde, là aussi je pense qu'il l'évoquera, le privé l'emporte sur le public, ce n'est pas la peine de se faire des illusions. On parle d'espace public à tout bout de champ et nos maires nous inventent des espaces publics jour et nuit. Il y a une privatisation des espaces publics qui transforme totalement le rapport du privé et du public. Ce qu'on va voir est dans la construction et sur le plan de l'urbanisme. C'est tout l'intérêt de voir ça concrètement. Dernière remarque, là aussi, c'est les tendances à la mixité, qu'on soit de droite ou de gauche, on est tous pour la mixité sociale, formidable, mais la mixité perd du terrain sur ce qu'on appelle les logiques de l'entre-soi, dont il sera fait écho également tout à l'heure. Donc, essayons de voir ces tendances lourdes, c'est quand même le problème démocratique. Qu'est-ce qu'elles produisent ? Est-ce qu'elles produisent simplement des inégalités territoriales ? Elles produisent de la fragmentation. Quel type de fragmentation ? Elles produisent de la démarcation. Elles produisent aussi des types d'espaces urbains, des connexions, qui ont tendance à séparer plus peut-être qu'à rapprocher. Tout ça est à voir. C'est pourquoi je vous propose, en l'absence de Devzi, de cadrer comme ça notre débat. Il y aura deux interventions de 20 minutes chacune, avec PowerPoint pour un peu voir les choses. C'est l'intérêt de pouvoir tester du concret. On n'est pas toujours dans le virtuel, hein, devant des dessins faits sur le numérique. Je demanderai à David Mangin, tout simplement, par rapport à ses travaux, c'est d'essayer de nous éclairer sur quels sont, en écho à ce que j'ai déjà dit, les tendances lourdes de l'urbanisme contemporain. Est-ce qu'il y a une espèce de modèle qu'on voit un peu partout, lequel, pourquoi et comment le contrer ? Bien entendu, ce qu'il fait lui en travaillant. Vous savez qu'il est responsable du projet des Halles, il a mille autres réalisations. Et je voudrais, en passant, rappeler donc son livre, qui est un livre de référence aujourd'hui, pas uniquement dans les écoles, « La ville franchisée », qui nous rappelle que la ville aujourd'hui, elle est franchisée au sens de la franchise commerciale. Hein, les bouts de ville, pour parler comme ça. La ville, elle est aussi sectorisée. Sectorisée, c'est ce qu'il appelle l'urbanisme de secteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cet urbanisme sectorisé ? On se facilite la tâche en disant un peu vite qu'on en a fini avec Le Corbusier et l'urbanisme fonctionnaliste. On a un type d'urbanisme dont on va voir qu'il a des implications très lourdes à partir d'un type de modèle qu'il définira bien mieux que moi. Et enfin, que la ville, elle est individualisée. C'est cette privatisation qui passe par les lotissements, par la maison individuelle, par diverses choses, débat sur l'étalement urbain, etc. Donc, je lui poserai la question, c'est par rapport à la question de la démocratie. On a un type d'urbanisme aujourd'hui, qui n'est pas uniquement là, en France, hein, qui a tendance un peu à dissocier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer un peu la machine ? Je disais, en passant, en dehors de toutes ces réalisations qu'il fait... Il a, avec Yves Lyon et son ami Leclerc, fait partie animé une des 10 équipes sur le Grand Paris. Mais une fois de plus, nous ne sommes pas là pour avoir un débat sur le Grand Paris, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que ça... Enfin, on est là pour avoir un débat sur le Grand Grenoble. Bon, donc voilà, c'est la question que je poserai à David Mangin, le remerciant d'être ici, connaissant son emploi du temps, comme celui de Christina Conrad, qui est à ma droite. Christina Conrad, c'est quelqu'un aussi qui écrit, qui réfléchit beaucoup sur toutes ces questions, qui est une actrice. Elle a été la présidente, c'est comme ça que je l'ai connue, et actrice au sens fort du terme, et qui a été présidente de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Et je dis ça parce que c'est un ordre qui était quand même un peu classique, hein, je crois, qu'elle a un peu troublé et fait bouger, surtout en l'amenant à des débats sur la question sociale et le problème du logement. Donc elle, on lui demandera plus d'intervenir sur quelle politique du logement face au tout à la maison individuelle et pourquoi le tout à la maison individuelle. Voilà, je m'arrête. Donc on va avoir un premier temps. Un premier temps sur l'urbanisme, un deuxième temps sur la politique du logement. Comme je sais que les questions sur la gouvernance vont... Et on leur demandera d'avoir un petit deuxième tour sur la gouvernance et il vous restera tout le temps. David, je te donne la parole. Merci.
Oui, voilà. Bonjour. Je vais rentrer assez vite dans le vif du sujet. Donc la question que me pose Olivier Mongin, c'est est-ce qu'il y a des tendances lourdes sur le développement urbain aujourd'hui et est-ce qu'il y a des alternatives à ces tendances lourdes ou est-ce que ces tendances lourdes sont tellement lourdes qu'il est très difficile de faire du rétropédalage par rapport à ça? Alors c'est une question que j'ai essayé de me poser depuis une dizaine d'années en remarquant qu'il y avait finalement assez peu d'analyse sur l'essentiel de ce qui se construit. Beaucoup de développement, de théories, voire de projets dits projets urbains, qui concernaient principalement finalement le centre-ville, les faubourgs et la banlieue proche, disons, des agglomérations, qui représentent finalement que 5 à 10 % de ce qui existe comme tissu constitué et puis de lieux d'habitat. Et que finalement, 90 % de ce qui était en train de se construire sous nos yeux depuis les années 70-80, finalement, il y avait beaucoup d'observations et de débats intéressants dans les milieux sociologiques, économiques, anthropologiques, mais finalement, une espèce de fatalité qui était couverte par le terme « la ville générique ». Et donc la ville générique avec cette idée, certes, il y a une dimension générique dans toute cette affaire, mais finalement comme une espèce de fatalité, on ne comprend pas. Voilà, comme si on était dans un labo avec un virus qui est là et on ne sait pas très bien. Voilà. Donc je me suis lancé dans une tentative d'essayer de comprendre d'abord ce qui se passait en France et quelles étaient les logiques qui étaient en place. Et donc les acteurs. Donc finalement, avec l'idée toute simple, c'est que moi je suis architecte urbaniste, c'est qu'il y a effectivement assez peu de... Sur ces territoires, la première remarque, c'est que finalement, nous architectes urbanistes, on agit très peu. On est, parce que c'est justement un monde qui est principalement régi par le privé, qui est et sous toutes ses formes, qui sont les grands acteurs émergents de ces 30 dernières années. Et que donc, si on voulait un jour pouvoir agir là-dessus, il valait mieux comprendre pour agir. C'est tout bête, mais c'est ça l'idée. Et donc j'ai vu apparaître des panneaux comme ça, comme tout le monde dans les il y a une quinzaine d'années, chacun en traversant la France ces 15 dernières années a pu voir ça et sans vraiment comprendre. Voilà, il faut tourner à droite pour aller à gauche, tout est dépendant d'automobile, etc., etc. Alors pour aller vite, donc c'est dans ce livre qui s'appelle effectivement La ville franchisée que j'essaie d'expliquer qu'il y a trois dynamiques majeures qui fonctionnent ensemble, qui sont, les logiques routières, voire autoroutières, donc les voies rapides. La France a moins de 20 minutes. Il y a eu un très bon livre cartographique qui a montré, qui d'ailleurs pourrait étoffer la thèse de Davy qu'évoquait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que aujourd'hui, notamment dans un pays comme la France, le réseau est tellement fort, le réseau de voies rapides est tellement fort, à part le Massif central ou dans les systèmes montagneux ou bien ou en Corse, par exemple, à part ces régions-là, on accède à une voie rapide à moins de 20 minutes de pratiquement tout point du territoire et donc à un certain nombre de services. Donc, première remarque, le système, il est entièrement, il consacre la victoire de l'automobile. Chose qui n'était pas du tout évidente dans les années, encore dans les années 50, je dirais. La victoire de l'automobile comme le moyen dominant individuel qui permet une liberté de départ et de destination très grande, c'est finalement ça qu'il a emporté comme valeur et comme moyen mécanique. Et donc tout s'est organisé par là. Et ça dépasse bien largement l'affaire des routes, puisque c'est les typologies de bâtiments, puisque c'est l'énergie, puisque on sait tout ça, mais c'est bon à rappeler. Et on voit bien que justement, une des difficultés de faire évoluer le système, c'est que c'est une logique économique et spatiale bien plus, qui dépasse largement le fait d'aller d'un point à un autre, puisqu'elle engage toute une économie et aussi des modes de vie. Deuxième, donc voilà, ça c'est des petits schémas que j'utilise assez souvent, qui sont des schémas plus que des, qui veulent être un peu pédagogiques et qui sont plus pour montrer la dynamique des choses que l'état des choses. Les choses en plus vont tellement vite que, donc voilà très, très classiquement comment les choses se sont passées. Vous voyez, je le fais très rapidement, une autoroute passe au large d'une ville, des bretelles se raccordent, des centralités, notamment commerciales, comprennent très très vite qu'elles ont intérêt de se mettre là où il y a le plus de visibilité, plus de foncier pas cher, plus d'accessibilité, et donc elles se mettent soit en vitrine, soit sur les grands échangeurs routiers. Au bout d'un moment, la question d'une rocade se pose pour contourner la ville, voire d'une seconde bretelle, et de nouvelles centralités se composent, donc un espèce de modèle polyradiocentrique se fabrique. Les petits schémas d'en bas sont intéressants, je vais y revenir tout à l'heure, parce que ce système de maillage par un système de voies rapides, il fonctionne à l'échelle des agglomérations, il va fonctionner à l'échelle des agglomérations très systématiquement. Ça, c'est un modèle pur, je dirais, genre la plaine atlantique, mais quand ce modèle réussit à se fabriquer quand les reliefs sont plus compliqués. Et puis, il va aussi, de façon, alors on pourrait dire fractale, aussi fonctionner, y compris autour des bourgs et des villages, par des micro-rocades. Donc, l'ensemble devient sectorisé au sens de voies rapides qui maillent l'ensemble du territoire. On passe d'un système d'îlots, grosso modo, à un système de secteurs. Deuxième acteur, c'est, je crois que j'ai chanté une diapositive, c'est un urbanisme de produits, dont le plus connu est celui de la grande distribution, qui en France, alors c'est vraiment une particularité française dans la façon dont cette urbanisation s'est montée, c'est-à-dire que la grande distribution est apparue très tôt et a, évidemment, avec les concepts qu'on connaît, nos parkings, nos business, tout sous un même toit, un produit d'appel qui est la nourriture, donc tout ça est un peu différent du modèle, par exemple, américain, mais il a évidemment été un agent extrêmement important de redistribution générale sur le territoire. Troisième acteur, toujours sur dans la façon dont ça s'est fait en France, la façon dont l'étalement résidentiel a fonctionné. La maison individuelle, certes, elle a existé en France, ne serait-ce que dans l'habitat rural, mais bon, il y a eu quelques vagues de maisons individuelles dans le Nord ou avec la loi Loucheur dans les années 30, mais c'est vraiment avec le désengagement de l'État dans l'habitat collectif que, à partir des années 70, on voit apparaître un produit, là aussi, qui est le produit lotissement. Pourquoi le produit lotissement ? C'est lié à la fois, évidemment, à l'agriculture qui subit très grande transformation et donc moins d'agriculteurs, un vieillissement de la population dans les villages. Donc on se pose la question de comment sauver l'école et les services publics. Et on invente ce truc très bizarre, très franco-français, qui est un mixte entre un travail entre les géomètres, les agents immobiliers locaux, les notaires et les maires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un plan de développement d'un village ou d'un bourg. Il faut faire venir une couche de population avec enfants qui vont permettre de revitaliser les villages et sauver un minimum de services publics dans le village. Donc c'est les années 80-90, avec, chose particulière, le fait, et on va retrouver ce problème-là, j'y reviendrai tout à l'heure de façon récurrente, le fait que c'est soit pensé comme un produit, comme un espèce de produit standard qui vaut pour le commerce, ça vaut pour les parcs technologiques, ça vaut pour la logistique, ça vaut pour le tourisme, le fait que ce soit pensé non pas comme un urbanisme de projet, mais comme un urbanisme de produit, fait que ça a finalement une très faible capacité de muter et de bouger, parce que ça concerne finalement un domaine entier monofonctionnel et qui a des difficultés de bouger. Par exemple, il y a vraiment une vraie difficulté de trouver un marché de la maison individuelle comme il y en a aux États-Unis qui permet une mobilité résidentielle, enfin je ne parle pas de la crise, mais qui normalement a une mobilité résidentielle importante, qui fait que aussi ça réduit les déplacements, mine de rien. Et en France, donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe quand dans les années 90, les ados s'en vont, les parents divorcent, et au bout de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On refait une couche de lotissement. Et puis on fait une micro-rocade et finalement on trouve ce système que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'échelle des bourgs et des villages, on a à nouveau des systèmes de sectorisation Et donc finalement, cette impression qu'on est un peu toujours dans la périphérie, même quand on est périphérie du centre du village, qui devient une icône patrimonialisée, et on tourne autour. Donc que ce soit dans l'agglomération ou que ce soit à l'échelle d'un village, on retrouve ce phénomène assez régulièrement. Alors en quoi c'est ce que j'appelle la ville franchisée. Donc Olivier vient de décrire rapidement ce terme, j'y reviens. C'est très important de comprendre ça parce que c'est finalement la double acception du terme. La première acception franchisée, les produits McDonald's, le Formule 1, etc., que tout le monde connaît, qui est liée très directement à l'acception commerciale du terme, c'est une acception domaniale du terme. C'est-à-dire, ça veut dire que de plus en plus, il y a réduction en surface concrètement de l'espace public produit. Je ne parle pas des aménagements dont tu parles, c'est-à-dire comme ça, c'est justement presque l'exception qui confirme la règle. On va en mettre beaucoup sur une place, mais à côté, l'espace public devient réduit au système de flux pour la voiture et à une addition d'environnements sécurisés. J'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent, on parle beaucoup des gated communautés américaines et puis on se limite à ça et puis ça fait épouvantail et puis nous, on a l'impression d'être clean. Et voilà. En réalité, si vous regardez bien très massivement, très quantitativement sur les cartes, j'en ai fait à l'époque un certain nombre pour illustrer dans le livre, mais enfin bon, ça continue. C'est-à-dire que c'est tout programme confondu qu'on a ces systèmes de domaines, d'enclaves, qui ont des conditions d'accessibilité qui fait qu'elles ne sont pas des espaces publics au sens où Christian de Villers a très bien défini il y a quelques années, c'est-à-dire libre et gratuit d'accès. Donc cette définition assez simple, eh ben vous l'avez. Les lotissements raquettes que je montrais tout à l'heure, il y a des façons très subtiles de finalement d'en faire finalement quelque chose, un, qu'on ne peut pas traverser puisqu'ils sont conçus comme ça d'emblée, deux, qu'on ne densifie pas, et trois, au nom de la sécurité des enfants ou au nom de je ne sais pas quoi, on arrive à on modifie simplement dans le PLU des seuils minimums de parcelles. Il y a mille façons finalement de progressivement fabriquer ces entre-soi qui soient résidentiels, mais j'insiste aussi, c'est un peu tous les programmes qui sont touchés. Donc ça fait une ville qui est la ville d'une juxtaposition d'environnements sécurisés qui peuvent être très sympathiques, mais qui sont entièrement dépendants de l'automobile, première remarque, et qui rendent les autres très dépendants de l'automobile. Parce que quand quelqu'un arrive et projette, et vient voir le maire en disant je vous produis clé en main un ensemble, un parc d'activité, ça va vous faire venir 30 emplois, 30 maisons, ça va vous faire sauver l'école. Quand il le fait sous sa forme-là, bien entendu, c'est très bien, mais quand il le fait sous la forme dans laquelle les choses sont non conçu, c'est-à-dire autrement qu'une remise de produit, il produit pour le reste de tout ce qui est autour, il va produire aussi une dépendance automobile. C'est-à-dire que pour arriver au service quotidien, vous allez être obligé de prendre votre voiture pour contourner et à nouveau rentrer dans ce système-là. Alors, rapidement, est-ce que ce modèle est spécifique à la France ? Non, clairement non. Si vous regardez la façon dont, les villes américaines ont bougé toutes ces 30 dernières années, érosion de la grille américaine, au départ c'était des grilles de tracés et de voies continues, et petit à petit, le système autoroutier, plus le système de la grande distribution, voire même le système justement des enclaves résidentielles, l'ont fait changer en un système tout à fait beaucoup plus proche finalement du modèle radioconcentrique que j'ai décrit précédemment et d'une juxtaposition d'enclaves. Hein, c'est ce que vous voyez dans les schémas en bas, là, la grille noire, et finalement l'évolution des modèles avec les grands môles et les grandes radiales pour rejoindre le centre. En Asie, c'est la même chose. Les villes chinoises qui étaient au départ conçues comme des ensembles de grilles homothétiques qui s'agrandissaient, petit à petit, les mêmes opérateurs arrivent et les mêmes modèles circulent. Alors, la différence, c'est que les choses ne se passent pas forcément exactement dans le même ordre. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on a eu les autoroutes, puis la voiture et la grande distribution, puis la maison individuelle. Dans l'Europe du Nord, la maison individuelle en rangée dense, etc., existe, ou les cités-jardins existaient depuis, depuis très longtemps et n'ont jamais cessé d'exister. La voiture est arrivée et les voies rapides, et la grande distribution est arrivée plus tardivement. Elle est en train d'arriver maintenant, puisque en fait c'est souvent d'ailleurs des opérateurs français qui s'exportent. En Chine, le mouvement est un peu différent, puisqu'on on commence par faire les autoroutes sur les très grandes avenues qui existaient déjà en Chine et qu'on a continué à développer. La grande distribution arrive et maintenant c'est la course à avoir sa maison et à avoir sa voiture et sa maison. Donc tout ça est assez convergent en réalité, mais se passe dans des ordres, dans des sédimentations un peu différentes, mais en fait parce que les produits circulent. Alors, que faire ? À l'échelle des agglomérations, on voit qu'il y a un certain nombre de politiques alternatives que j'ai décrites dans ces trois petits schémas. On est un peu pris dans ces trois schémas, ce que j'appelle l'urbanisme du réel, celui du fantasme et celui du possible. L'urbanisme du réel, c'est en fait le tout voiture qui continue à être le modèle dominant de cette consommation d'espace qui, évidemment, en France, ne pose pas de problème, parce qu'il y a beaucoup d'espace constructible. Donc, les gens qui défendent la thèse que pourquoi pas, quoi. Bon, avec, chacun le sait, le problème du coût des réseaux que ça pose et des temps de déplacement et du coût en énergie que ça pose. Deuxième modèle, ce que j'appellerais de façon provocante l'urbanisme du fantasme, qui est en fait l'idée qu'on va pouvoir progressivement, par à la fois de la désurbanisation et de la réurbanisation, de la dédensification et de la redensification, dans un phénomène conjoint, à la fois finalement faire une ville qui soit comme Copenhague après-guerre, le fameux Fingerplan, le plan d'extension de Copenhague, avec donc tout structuré à partir d'un réseau de transport en commun, et puis la proximité de parcs, donc voilà, de la géographie et du transport en commun pur et dur, donc un ensemble de cités linéaires plus ou moins convergentes avec le centre. Et puis, en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire les uns les autres, dans le meilleur des cas, d'un certain nombre d'agglomérations? C'est ce que j'appelle là l'urbanisme du possible. C'est en fait introduire du transport en commun avec le double objectif d'essayer que les gens qui n'ont pas la voiture, et ils sont nombreux, et ils sont peut-être de plus en plus nombreux pour des questions de génération, de vieillissement, ou des questions de permis, ou des questions de coût simplement de la voiture. Donc essayer d'introduire du transport en commun pour ça, et puis pour réduire l'espace de la voiture, parce qu'en général c'est un double objectif. Donc c'est ça, et au passage essayer d'introduire plus de géographie, donc passer à un urbanisme de projet qui s'appuierait sur la géographie et sur une reconquête d'un espace public ou de pièces de nature qui peuvent être fédératrices d'un nouvel urbanisme. Ça, c'est à cette échelle-là. À l'autre, à l'échelle un peu en dessous, à gauche, c'est un schéma qui essaie de dénoncer les principes de cet urbanisme de secteur. Donc, vous voyez, en fait, une maille, on roule à 110, 130 tout autour, et puis on a des points d'accès, que ce soit pour le centre commercial, que ce soit pour les lotissements, que ce soit pour un parc d'activité, que ce soit pour un parc touristique. Voilà. Et donc ça, c'est évidemment une grande accessibilité mobilité, une grande souplesse dans ses horaires, si tant est que pour rejoindre son travail, on arrive à avoir des horaires réguliers, ce qui est quand même le cas relativement dans un centre d'agglomération, je parle. Je ne vais pas parler du cas de Paris. Mais à l'inverse, une grande dépendance automobile, un accès aux services quotidiens, c'est-à-dire en fait quoi, l'école, l'arrêt de transport en commun et le commerce quotidien qui se fait obligatoirement par la voiture. Donc la maille faisant plutôt assez vite de l'ordre des 500 000 mètres plutôt que la centaine de mètres qui sont à peu près les tailles des îlots de faubourg ou à peu près accessibles à différents modes de transport. Une offre de foncière, et ça c'est un argument qui est assez important et notamment aujourd'hui, qui est peu diversifiée, c'est-à-dire ça suppose des opérateurs assez grands qui finalement imposent leur seuil de rentabilité et leurs produits. Et puis, quand il y a des retournements de conjoncture ou des difficultés à monter, ça devient, c'est ce que Potzampar montre assez bien dans ses négociations avec les Chinois, et un argument qu'ils entendent, c'est quand il va faire de gigantesques secteurs avec des condominiums au milieu, il leur dit, ben, c'est très bien, mais si la conjoncture se casse la gueule, ou si vous n'arrivez pas à faire votre programme jusqu'au bout, ben vous, voilà, le truc va être bancal et vous ne saurez pas le faire. Donc, il faut redécouper davantage et avoir une trame urbaine beaucoup plus souple qui va permettre aussi une adaptation beaucoup plus souple des parcelles. Voilà. Alors, à l'opposé, ce schéma de droite essaie d'expliquer évidemment les avantages d'avoir une ville plus... Alors, c'est l'expression que j'ai trouvée, faut de mieux, mais je trouve qu'elle les gens la comprennent, donc ce que j'appelle la ville passante. Qui veut dire quoi? C'est-à-dire que, un, le minimum qu'on peut exiger, alors peut-être démocratiquement, je ne sais pas, je ne vais pas employer trop le mot parce que je ne suis pas politologue, mais c'est qu'on puisse traverser une ville. Je pense que je ne dis pas qu'il faut, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur la mixité sociale et qu'il faut voir tous les matins qu'on va discuter avec l'ensemble des classes de la société tous les matins. Mais le minimum, c'est qu'on puisse traverser une ville, en voir ses quartiers et bon. C'est la première chose. C'est le minimum, c'est qu'on puisse accéder par des modes de déplacement dits doux. Donc, c'est inverser le paradigme. On pense par la voiture et on décline après la voiture, les transports en commun, le vélo, le piéton. Les choses revont dans l'autre sens. Donc, on oppose à la circulation une politique de déplacement, on occupe à la vitesse une politique de fluidité. Et on rend accessible au minimum les trois fonctions par des déplacements à pied, à vélo, en véhicule électrique. Et c'est aussi valable pour la métropole, c'est-à-dire comment on peut accéder au transport en commun qui après peut être beaucoup plus rapide et vous donne en même temps la rapidité, mais en transport en commun par rapport à la et en même temps le la vie de quartier, quoi, pour parler simplement. Voilà, j'en ai peut-être terminé pour ce tableau un peu rapide pour montrer quelles étaient les tendances lourdes et quelques perspectives de lutte.
Merci beaucoup. Donc, je crois que c'est un peu dans la continuité. Christina, je pense, s'accorde avec l'analyse qu'elle fait. Maintenant, on va essayer de voir par rapport à la maison individuelle, donc l'étalement, etc., comment comprendre une politique du logement. Sachant que si on regarde quand même ce qui s'est passé en Espagne après la bulle, on a un pays effectivement qui n'a pas trouvé l'équilibre entre accès à la propriété individuelle, logement locatif et habitat social, d'où la crise extrêmement forte qui se joue en Espagne, puisque l'équilibre exige d'être sur les trois. Enfin, c'est ce que Christina Conran m'avait toujours appris. Merci, je te donne la parole.
Oui, donc en attendant que le... On entend là ? Là, ça va ? Oui, en attendant que le PowerPoint soit là, je vais vous exposer un peu les grandes lignes de ma présentation. Donc, je voulais aborder quatre sujets. Le premier, c'est donc en complément de ce qu'a dit David Mangin, donc les grands processus à l'œuvre dans l'urbanisation aujourd'hui en France. Le premier thème, donc le deuxième thème, c'est la politique de l'habitat française. Troisième thème, donc c'est la densité. Quatrième thème, ce serait la mixité, le vivre ensemble. Et enfin, pour conclure, les grandes lignes d'un développement durable. Alors, je vais commencer par un sujet qui est un peu tabou en France. C'est le problème de la structure et des compétences territoriales. Non, ce n'est pas ce PowerPoint-là. Hein. Pardon ? Bon, en attendant. Bon, je vais commencer, donc c'est pas grave, et puis on verra. Je voulais commencer par un sujet qui est tabou, c'est celui de la constitution des communes françaises, puisqu'on a 36 600 communes en France, dont 34 000 ont moins de 2 000 habitants. Le nombre de communes françaises est supérieur à celui de l'ensemble des pays européens, de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que tous les autres pays européens ont fusionné les communes ou ont diminué leur nombre de communes. Alors, en Espagne, en Italie, on a 8000 collectivités locales, en Allemagne, 12000, en Belgique, 590. La population médiane des communes en France est de 380 habitants. En Espagne, elle est de 5500, en Italie de 2400, en Belgique de 11000. Si je dis ça, c'est parce que ce n'est pas neutre dans la forme d'urbanisation qui est à l'œuvre aujourd'hui en France. La décentralisation a transféré l'urbanisme et le permis de construire aux collectivités locales. Un tiers des communes n'a aucun règlement d'urbanisme. Les agriculteurs représentent 2% de la population et ils occupent 20% des sièges de maire. Chaque maire se sent, et c'est normal, c'est dans sa mission, se sent le devoir de développer sa commune, parce que sinon il va avoir des problèmes avec les effectifs dans les écoles, etc. Donc chaque maire est devant une difficulté, il n'a pas les compétences ni les moyens de faire de l'urbanisme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en remet à la DDE, mais la DDE, il y a de moins en moins d'effectifs, de moins en moins de personnes pour assumer l'aide aux collectivités locales. Et il n'y a pas d'urbanistes ou d'architectes ou de gens qui sont véritablement compétents dans le faire, dans l'urbanisme, dans les DDE. Donc, il est aux mains du marché, c'est-à-dire des pavillonneurs, des géomètres qui les aident à découper des lots et à faire donc l'urbanisme qu'a décrit tout à l'heure David Mangin. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis 1985, 80% des surfaces dédiées à l'habitat sont consommées par de l'habitat individuel, ce qui constitue à terme une catastrophe écologique. Donc ça, il faut vraiment en être conscient, puisqu'on consomme 70 000 hectares par an, c'est-à-dire l'équivalent d'un département tous les 10 ans. Ce qui est grave aussi, c'est que la maison individuelle est très fortement encouragée par l'État, dans la mesure où les aides publiques se sont retirées pratiquement du logement social, et on a vu tous les débats qu'il y a eu autour du livret A. Les aides publiques aujourd'hui, il y a 33 milliards pour l'habitat privé, il n'y a que 2,5 pour l'habitat social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que l'aide à la pierre ou toutes les incitations fiscales, c'est-à-dire les défiscalisations, les prêts à taux zéro. Et bon, il y a la politique de la maison à 15 euros qui est aussi une politique en faveur de la maison individuelle. Bon, je ne vais pas revenir sur justement le développement des routes, des autoroutes, des hypermarchés et tout ça, puisque David l'a très bien exposé, ni aussi bon, sur le fait que dans les communes qui n'ont pas de règlement d'urbanisme, la plupart du temps, le préfet laisse faire du diffus et de l'habitat en lotissement, même très loin des zones urbanisées, alors que normalement la loi l'interdit, mais il suffit que la commune fasse une délibération municipale pour que ça soit possible et qu'elle puisse construire, puisqu'elle peut toujours dire que sinon son école ne va pas fonctionner. Et puis, par ailleurs, on a aussi une intoxication au niveau de la publicité par rapport à la maison individuelle. On est tous les jours bombardés par des images. La prochaine image, on peut la regarder ? Ah, c'est là ? Sur la droite. Voilà. Je ne veux pas nier qu'il y ait des vraies raisons pour l'engouement, qui explique l'engouement pour la maison individuelle. C'est vrai qu'il y a eu tout un rejet du grand ensemble. Et puis, l'habitat individuel offre des avantages que n'offre pas l'habitat collectif, les appartements collectifs. Il y a les prolongements extérieurs de l'habitat, il y a une certaine tranquillité, il y a un jardin. Donc, forcément, et puis, ce rapport aux racines très ancré en France, etc. Donc, c'est pas innocent, je veux dire, ça correspond bien à quelque chose. Ceci dit, et c'est là où je pense qu'en tant qu'architecte, on a des propositions, on pourrait avoir beaucoup de projets alternatifs, c'est-à-dire que il n'y a pas que le collectif ou l'individuel, il y a plein de solutions intermédiaires avec de l'habitat superposé, avec du petit collectif, avec des terrasses, avec du prolongement extérieur. On peut créer du vivre ensemble sans que ce soit uniquement du collectif ou de l'individuel. Alors, maintenant, je vais vous parler donc de la... attendez, je ne vois pas. Oui, alors, bon, là, j'ai voulu présenter un peu tous les effets négatifs donc de l'habitat individuel. Parce qu'on ne comptabilise, on parle de la maison individuelle en disant oui, les Français veulent de la maison individuelle, mais on ne comptabilise jamais finalement tout ce que ça coûte. Puisque quand il y a de l'étalement urbain, il y a forcément des réseaux à entretenir, il y a des routes à construire, il y a de l'électricité, il y a le ramassage des ordures, il y a le facteur. Il y a, tous ces éléments-là, non seulement ça ne crée pas du vivre ensemble, mais en plus ça se répercute sur les impôts, puisque forcément il faut bien le payer tout ça. Et donc c'est les gens qui habitent dans le centre vont devoir payer pour les gens qui vont de plus en plus loin. Puisqu'ils vont de plus en plus loin, parce qu'il y a un problème au niveau du foncier. Le foncier est devenu, tellement cher autour des villes que pour pouvoir se loger, les gens vont de plus en plus loin. Et comme ils n'ont pas d'alternative, on ne leur propose pas de logement locatif dans le centre des villes, ils sont obligés d'aller de plus en plus loin et quelquefois même prendre le TGV. En tant qu'architecte conseil, je le vois sur la ville de Sens, par exemple, il y a de plus en plus de gens qui vivent du côté de Sens et qui travaillent à Paris et qui prennent le train tous les jours. Alors, au niveau de la politique de l'habitat, ce que l'on peut voir, c'est que cette politique de l'habitat accroît les inégalités. D'une part, le nombre de logements sociaux est très, très largement insuffisant, puisque en 2008, l'an dernier, sur 430 000 logements, on n'a construit que 30 000 logements véritablement sociaux, c'est-à-dire même pas 10%. Et alors que, par ailleurs, sur ces 430 000, il y avait 70 000 résidences secondaires. Tout le reste, c'était de l'habitat donc en accession. Et or, les demandes, c'est surtout de l'habitat locatif. Et de plus en plus, avec la crise, ça va être encore bien pire. Aujourd'hui, il y a 1 200 000 demandeurs de logements sociaux. Si on construit que 30 000 logements par an, c'est clair que on ne va qu'accroître la difficulté. D'après donc, la Fondation Abbé Pierre, il y a 6 millions de personnes en grande précarité. Bon. Par ailleurs, la loi SRU, elle n'est pas respectée. La loi SRU, c'est la loi de solidarité et de rénovation urbaine. En principe, elle contraint les communes depuis 2002 à atteindre l'objectif de 20% de logements sociaux. Mais la pénalité n'est que de 159 euros par logement par an, ce qui fait que toutes les communes qui n'ont pas envie de faire du logement social y échappent. Il y a seules 4 communes sur 10 qui respectent la loi. Donc c'est un vrai problème, puisque l'intérêt de cette loi SRU, c'était qu'elle rééquilibrait sur le territoire la répartition des logements sociaux. Et donc aujourd'hui, d'une certaine façon, elle est en panne. De même, les projets de rénovation urbaine de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui consistait à remodeler les grands ensembles pour venir également rééquilibrer les logements sociaux, faire que ces quartiers ne soient plus des ghettos et qu'ils aient également de l'accession et du prêt locatif à l'intérieur, donc de créer de la mixité dans ces grands ensembles. Malheureusement, avec la crise, que ce soit la foncière logement ou les promoteurs privés se sont retirés de ces quartiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le plan de relance, les 30 000 logements qui sont cédés par donc les promoteurs privés aux HLM, ils se trouvent la plupart du temps dans ces quartiers. Ça veut dire qu'on a démoli du logement social. Bon, ça a permis de recomposer un petit peu l'organisation urbaine. Mais tout de même, on va y reconstruire du logement social. Donc ça pose un vrai problème. En ce qui concerne la loi Dalo, elle consiste donc à héberger donc les gens qui sont à la rue et qui sont en demande donc de logement. Et donc le problème, c'est qu'elle pénalise les communes qui sont bien dotées en logements sociaux, puisque le préfet, en fait, là où il y a des demandes, demande au maire de reloger ces personnes dans la commune où il y a une demande. Mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas à Neuilly qu'on va aller demander des logements, puisqu'il n'y en a pas, des logements sociaux. Donc forcément, on va aller en demander là où on a de la famille ou des connaissances. Où, bon, on a forcément, on va aller demander du logement social là où il y a du logement social. Donc ça veut dire qu'on va réinjecter du logement social là où il y en a déjà. Bon, par ailleurs, bien sûr, la France, toute la politique la France de propriétaire, qui est aujourd'hui donc très mise en place à travers le prêt à taux zéro et le foncier différé. Le foncier différé, ça veut dire qu'on a un prêt à taux zéro, mais également, on vous donne la possibilité de payer le terrain après. C'est-à-dire qu'en fait, on paye pendant 30 ans ou 20 ans la maison et on paye pendant 20 ans après donc le terrain. Donc ça, en période de crise, c'est absurde parce que d'une part, les banques ne veulent pas tellement donner de crédit et puis les gens ont peur de se retrouver dans des situations de fragilité. Et puis même s'ils s'y engagent, si jamais, comme ce sont des maisons qui vont être de toute façon loin de leur emploi, d'une part, ils risquent avec la hausse du prix de pétrole de ne pas pouvoir s'y rendre. Et puis d'autre part, ils ne vont pas être mobiles pour changer de travail s'il faut changer de travail. Donc ce n'est pas une politique qui est très, très, très bienvenue en cette période de crise. Et enfin, dernier point, sur les défiscalisations. Donc les défiscalisations, on a vu ce que ça a donné aux États-Unis ou en Espagne, mais également en France, on a à Montauban, à Agen, à Clermont-Ferrand, on a des milliers de logements qui sont vides, qui ont été parce que les défiscalisations sont faites par des banquiers qui ne sont pas des vrais maîtres d'ouvrage, qui ne font pas des vraies études de marché. Et donc, ils construisent là où ils trouvent des terrains qui ne sont pas très chers. Et comme ils construisent tous en même temps dans les mêmes endroits, bon, on se retrouve autour de Toulouse, par exemple. On s'est retrouvé avec des logements qui restent vides. Et ce qui est grave, c'est que les familles qui ont acquis ces logements, si elles ne peuvent pas rembourser les prêts, si elles n'ont pas de locataires, elles sont obligées de rembourser à l'État l'aide qui leur a été donnée. Donc, ils se trouvent deux fois pénalisés puisque elles doivent rembourser les prêts que l'État a fait, mais en plus, elles ont un logement qu'elles ne peuvent pas louer et même quelquefois qu'elles ne peuvent pas vendre. Donc, c'est un vrai souci. Enfin, bon, je vais passer donc au troisième. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Je vais accélérer. Donc, là, c'était juste pour expliquer, parce qu'il y a une idée préconçue sur la densité. C'est un schéma qui a été fait par l'IORIF que je trouve très intéressant parce qu'il enlève beaucoup d'idées préconçues sur la densité. Sur ce schéma, ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en fait, la maison de village, c'est-à-dire la maison traditionnelle qui existe dans tous les villages de France, la maison à coller, la maison de ville, elle est plus dense que le grand ensemble. Oui. Alors, on voit ici, là, c'est la maison individuelle au milieu de la parcelle, à gauche. C'est ce qui se construit aujourd'hui en France. C'est une densité de 0,15 environ. Hein. C'est-à-dire que, je ne vais pas trop rentrer dans les notions de densité parce que c'est un peu compliqué, mais grosso modo, c'est ces chiffres que vous pouvez retenir. La maison donc individuelle, elle va entre 0,15 et 0,6 à peu près. Le grand ensemble, et ça c'est lié au prospect, au règlement d'urbanisme qui existe en France, c'est-à-dire que quand on est très haut, comme il y a une règle H égale L ou H égale L sur 2, ça dépend des PLU ou des postes, donc on ne peut pas construire, si on a une tour de 100 mètres par exemple, on ne peut pas construire soit 50 mètres autour ou 100 mètres autour, donc ça libère des terrains, ce qui fait qu'on n'a pas une forte densité dans les grands ensembles. Parce que quand on demande aux gens qu'est-ce qui est dense, la plupart du temps ils pensent que le grand ensemble est dense, ce qui n'est pas vrai du tout, le grand ensemble est très peu dense. Par contre, ce qu'on voit sur ce schéma tout à droite, c'est que ce qui est dense, c'est le tissu haussmannien. Et pourquoi? Parce que c'est une configuration d'îlot qui est dense alors qu'elle n'est pas très haute, mais parce qu'elle est dense en épaisseur et que l'îlot n'est pas très profond. Et il y a des cours qui sont construites à l'intérieur, ce qui fait que ça fait une densité. Et finalement, la plupart du temps, on dit la densité fait peur, alors que ce qui est le plus dense là, c'est-à-dire le tissu haussmannien, il ne fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est le grand ensemble. Donc on voit bien qu'on mélange des notions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, juste après, je vais vous montrer très rapidement des images, parce que je ne résiste pas en tant qu'architecte à l'idée de montrer quelques images d'architecture. Mais enfin bon, c'est juste pour vous montrer des densités, à quoi ça correspond ces densités. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la densité de 1. Ça, c'est la densité de 3, à grosso modo, hein, parce que c'est un peu... Et ça, c'est la densité de 5. Et là, c'était pour vous montrer donc, le grand ensemble qui n'est pas dense. C'est-à-dire que par rapport à la ville traditionnelle, dans la ville traditionnelle, l'espace public occupe 25% de l'espace. Dans le grand ensemble, il occupe 85%. Ce qui fait que le grand ensemble, on peut le transformer en quartier plus dense. Ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas y remettre du logement social, il faut y mettre autre chose, des équipements, des transports en commun, des logements en accession, etc., pour en faire un quartier comme un autre. Mais on a des réserves foncières, on n'est pas obligé d'aller construire complètement en périphérie, de même que dans les zones pavillonnaires, on a de la réserve foncière. C'est-à-dire, quand des élus disent qu'il n'y a pas de foncier, ce n'est pas vrai. C'est les droits à construire qui déterminent le foncier disponible. Donc, c'est les PLU, en fait. Alors là, je voudrais juste rapidement vous montrer un projet, enfin une réalisation qui s'est faite. C'est simplement pour que vous compreniez bien l'importance du projet urbain et architectural, c'est-à-dire de la forme urbaine. Parce que c'est juste un petit exemple, mais qui est très illustratif. Vous avez ici, on se trouve à Villeneuve-sur-Yonne, on a des, on voit peut-être pas très bien, mais enfin, bon, on a des tours, des petits plots HLM. On a un terrain vague triangulaire au milieu, là, et de l'autre côté, on a de l'habitat en accession à la propriété, de petits pavillonnaires, et on est en périphérie, de la ville. L'intérêt pour ces tours HLM, c'était d'avoir un espace très dégagé sur la campagne et d'avoir cet espace triangulaire dans lequel les gamins du grand ensemble HLM pouvaient jouer avec les gamins de l'accession à la propriété en face. Donc là, il y avait un petit terrain de foot, bon, etc. Le maire a décidé de vendre ce terrain pour y faire de la défiscalisation d'Eurobien. Et le promoteur donc, qui est venu présenter le projet, il nous a expliqué, voilà, il a fait 80 logements, je fais de la mixité sociale puisque je vais y mettre de locatifs intermédiaires. Et puis en plus, je fais de la résidentialisation, c'est-à-dire que je crée une résidence qui est complètement fermée tout autour avec juste un accès côté accession à la propriété, bien sûr, comme par hasard, c'est de ce côté-là qu'on ouvre. Et avec un parking au milieu, et donc 80 logements sont venus s'inscrire là-dedans. Ce qui est intéressant à travers cet exemple, c'est que, soi-disant, sur le papier, on a de la mixité, mais en vérité, on a fabriqué de la ségrégation sociale et spatiale là où il y avait de la mixité. Et donc, c'est pour vous faire comprendre que ce qui est important, c'est comment se dessine le projet. C'est-à-dire, et c'est l'espace public qui est le lieu du rassemblement, de l'échange, de la mixité. Il n'y a que l'espace public qui puisse véritablement créer. Ce n'est pas parce que l'on juxtapose des programmes de différentes natures qu'on a créé un vivre ensemble. Alors, voilà. Donc, bon, je vais finir par juste... un élément, enfin, vous expliquer les grands axes pour moi du développement durable. Donc, c'est trois grands principes. L'accessibilité, mais l'accessibilité dans un sens très large, c'est-à-dire quand on dit accessibilité, c'est pas uniquement les déplacements, c'est l'accessibilité aux équipements, l'accessibilité à l'emploi, l'accessibilité. Bon, en Allemagne, on parle de villes compactes ou villes des courtes distances, et c'est ça qu'il faut essayer de retrouver. Le deuxième objectif, c'est effectivement la mixité, en faisant la ville sur la ville, c'est-à-dire en retricotant et en redensifiant tous les espaces qui existent au sein de la ville. Il y a des friches, il y a plein d'endroits sur lesquels on peut venir refaire de la ville, et la densité qui crée donc la cohésion également. Donc voilà quelques images pour illustrer. Donc c'est Donc, si je peux revenir sur, sur ce que j'ai dit au départ par rapport aux communes françaises, mon propos n'est pas de dire qu'il faut fusionner toutes les communes. Par contre, je pense que qu'il serait temps de regrouper les compétences en matière d'urbanisme et d'instruction des permis de construire pour pouvoir se doter de véritables moyens pour faire de l'urbanisme et pouvoir mettre en œuvre une participation, etc., pour fabriquer du vivre ensemble.
Merci à vous deux. Bon, je crois qu'on a eu deux interventions très complémentaires. Urbanisme, politique du logement, débouchant sur des questions politiques, pas uniquement représentation, mais participation aussi. Donc je pense le mieux, on ouvre tout de suite le débat. On va prendre une première série de questions, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, parce que c'est des questions qui... On a eu affaire à des gens de métier impliqués, je pense que vous êtes tous impliqués. Monsieur le maire, alors rapidement, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter,
très,
c'est mieux
très,
pour...
Très, très rapidement.
Vous concernant... êtes maire d'où ? Non, mais maire d'où, ça serait bien de le savoir.
Je suis maire d'une petite commune dans le Var.
Vous pouvez donner le nom.
Qui fait juste un petit peu plus de 2000 habitants, donc 2300.
Elle n'a pas de nom ?
Qui a des bagnoles en forêt. Qui a des bagnoles en forêt, oui, oh, c'est au-dessus de Fréjus, entre Fréjus et Fayence. Ah. Donc, c'est facile. Là, juste, je voudrais dire un mot pour votre conclusion. Globalement, je suis d'accord avec vous, puisque nous vivons, nous avons à peu près triplé la population en tout juste 30 ans. Nous étions une très petite commune rurale et nous devenons, comme toutes les communes périurbaines de la Côte d'Azur, attractives. Mais juste une conclusion importante. Concernant les 20% et la loi SRU, si jamais demain nous déléguons, comme l'intercommunalité le prévoit, l'urbanisme et les permis de construire, et je vais vous donner un exemple concret dans le département, nous risquons d'avoir sur les espaces ruraux la problématique du logement social, dont nous ne sommes pas encore tenus à régler, en partie. Et je vais vous prendre un exemple très, très, très significatif sur la métropole toulonnaise TPM. Il y a une commune populaire qui s'appelle La Seyne, qui est dirigée par, disons, un maire progressiste face à un secrétaire d'État qui vient ou qui tente de mettre en place par le biais du SCOT ces 20% de logements sociaux de l'ensemble de l'intercommunalité sur la Seine. Donc là-dessus, il faut être extrêmement vigilant tant il peut y avoir là où il y a une cohérence, disons, politique, on peut éventuellement y réfléchir, mais où il y a une hétérogénéité politique avec des systèmes féodaux qui fonctionnent encore pas mal, il faudra faire attention.
Merci. D'autres questions ? On va prendre 4-5 questions. C'est ça vous ennuie de... Non, non, vous présenter aussi, s'il vous plaît.
Oui, donc Brigitte Périllet, je suis conseillère générale, vice-présidente au conseil général de l'Isère, mais j'étais maire dans le mandat précédent. J'ai perdu les élections. Je pense que la question de l'urbanisme était une des raisons, si ce n'est la principale. Je pense, moi, qu'il faut pouvoir sortir les élus communaux de la question de l'urbanisme, de la question de la pression foncière. Alors, vous avez dit, Monsieur Mangin, qu'il y avait de l'espace en France, mais pas partout. Dans l'agglomération grenobloise, l'espace foncier à bâtir est de plus en plus rare et participe fortement à la pression financière sur l'habitat. Hein, l'habitat est très cher ici et participe beaucoup à la pression de la part des citoyens. D'une part, le citoyen... ancien agriculteur ou fils d'agriculteur devenu propriétaire foncier puisque ces terres ne le font plus vivre donc avec un désir profond qui devient un désir familial et qui est très prégnant notamment en milieu périurbain de réaliser le capital donc par la promotion immobilière et donc qui fait pression sur les élus et puis le citoyen qui lui a profité des constructions précédentes et qui recherche en zone périurbaine eh bien, une grande tranquillité et donc ne veut plus que l'on construise. Moi, je crois que le principal handicap et difficulté que vivent les élus communaux, y compris à l'intérieur d'un bassin de vie, d'une intercommunalité, c'est la mise en cohérence des PLU. Et moi, je pense qu'il faudrait que ces PLU soient aujourd'hui, si ce n'est élaboré dans le détail au niveau de l'intercommunalité, au moins examiné et validé au niveau de l'intercommunalité, ce qui serait déjà une étape transitoire vers la prise de compétence des intercos de la question de l'urbanisme et l'élaboration des PLU. Et je pense qu'il faudrait que l'État aussi réintervienne sur la question de l'acquisition foncière, comme ça se fait notamment, je crois, aux Pays-Bas, où dès que les élus ont décidé de délivrer des terrains à l'habitat, eh bien, devient l'acquéreur direct de cet habitat, quelle que soit sa destination, que ce soit en promotion publique ou privée, hein, pour de l'habitat public ou privé. Et donc, il n'y a pas de spéculation foncière sur ces terrains. C'est l'État qui en fixe le prix, qui paye le propriétaire initial et qui remet les terrains à la collectivité locale pour élaborer les projets. Et je crois que si on arrivait à cette situation en France, qui voudrait dire rompre avec l'État, enfin le droit propriétaire sacro-saint, eh bien, on pourrait enfin avoir une politique d'urbanisation, d'aménagement du territoire cohérente et qui poursuit les objectifs collectifs. Voilà.
Merci. On prend encore une ou deux questions. On refera un tour. Hein. Bernard Soulage, je crois. Puis...
Oui, Bernard Soulage, je vais m'exprimer en tant que vice-président de la région Rhône-Alpes, chargé des transports, comme ça. Ça va prolonger le débat. Parce que moi, je voudrais vraiment qu'on prenne tous conscience de l'importance de ce qu'on se dit aujourd'hui et en témoigner un tout petit peu. Je suis en charge des transports avec d'autres hein, ici. Et franchement, quand on s'occupe des TER ou du transport public, avec l'urbanisation qu'on a, je le dis très souvent, certains d'entre vous me l'ont déjà entendu le dire, on a l'impression qu'on essaye de vider l'océan avec une petite cuillère. Parce que la forme d'urbanisation qu'a pris la France est dramatique. Il faut arrêter de raconter des histoires. On pourra toujours parler de lutte contre les gaz à effet de serre, etc. Si on ne règle pas, si on ne s'attaque pas à cette question, ça sera tout à fait central. Deux remarques, si vous me permettez, pour illustrer ce que vous avez dit, y compris pour des Grenoblois. Sur la densité, je rappelle à ceux qui connaissent un peu le secteur, la densité de la Villeneuve, 0,45, est la même que celle des Béalières à Mélan, pour ceux qui connaissent, qui sont des formes urbaines radicalement différentes, 0,45. 1000 logements d'un côté, 1000 de l'autre. C'est parfaitement comparable. Et on a des formes urbaines exactement contradictoires. Et d'ailleurs, des types d'habitats. Mais c'est de la mixité dans les deux cas. Hein. Donc c'est vraiment fondamental. Et ça vaut le coup de regarder ça demain matin. Qu'est-ce que ça donne? Deux choses exactement la même. Deuxième remarque sur les questions de conséquences de ce que vous avez dit. Quand j'étais élu de Mélan, j'avais fait un calcul, j'ai souvent donné. Je disais, et je peux le refaire, je veux être court, qu'on pouvait payer la piscine gratuite pendant toute leur vie aux habitants des tours du Bas-Mélan, rien qu'avec ce que coûtaient les ordures ménagères des villas du Haut-Mélan. Or, on discutait à perte de vue au conseil municipal de combien on allait augmenter les services publics et notamment les tarifs de la piscine. On aurait pu l'offrir gratuite à tous ceux qui habitaient les tours, les immeubles du Bas-Mélan. Parce qu'aller chercher les ordures ménagères, c'était encore plus cher. Et quand on prenait la poste et l'ensemble des services publics, on atteignait la gratuité de tous les services, y compris quasiment les crèches. Donc je crois qu'il faut bien qu'on le martèle, parce qu'on ne discute pas d'aller chercher les ordures ménagères dans les villas, mais on discute de savoir si on augmente de 3 ou 5% les tarifs de piscine. Et puis enfin, pour dire deux choses importantes par rapport à ce que vous avez dit. Ça vient d'être dit par Brigitte, vous ne l'avez pas assez insisté. La question foncière est déterminante. J'ai à côté de moi un vieux camarade socialiste, je l'assume, il me disait, est-ce que vous en parlez au PS, puisque je suis aussi secrétaire national du PS? Jamais. Depuis 67, la question foncière n'a jamais été posée dans ce pays. Et franchement, on a même perdu des outils. Les UP, les ZAC, les Béalières, c'est une ZAC publique, avec une maîtrise totale. Donc franchement, aujourd'hui, la question foncière est absolument déterminante. Si nous ne la traitons pas, vous avez totalement raison. Mais en même temps,
C'est ingérable s'il n'y a pas cette pression permanente. Je veux laisser un terrain à mes enfants, soit pour qu'ils y construisent, soit pour qu'ils gagnent de l'argent avec cela. C'est, on l'entend tous. Donc, vraiment, il faut s'attaquer à cette question-là. Et du coup, ma remarque, enfin, je la fais ici, je ne la fais pas ailleurs, parce que des fois, je m'occupe simplement d'essayer que les trains roulent mieux. Mais franchement, on est au cœur de la question. Comment on va s'attaquer à la question des objectifs de Kyoto puis de Copenhague si nous ne traitons pas cela, hein? Et je pense que tu avais raison, Olivier. Ça doit être réapproprié politiquement. Cette question du vivre ensemble et de la façon dont on va, à la fois pour des raisons écologiques et sociales fondamentales, rompre avec le mode d'urbanisation des 30 dernières années, si on n'en fait pas un thème majeur, et bon, c'est bien qu'on en parle à Grenoble, puisque c'est quand même à Grenoble que pas mal de choses sont nées, mais je pense que c'est absolument déterminant. Et moi, je souhaite vraiment que l'ensemble des forces politiques, après tout, hein, tout le monde peut évoluer, se saisissent de ça, et je suis très heureux qu'on en parle aujourd'hui, mais crions encore plus fort, parce qu'on va vraiment dans le mur.
Merci. Bon, il y a déjà, je crois, pas mal. On fera un deuxième tour, hein. Je crois qu'il y a pas mal de questions déjà. Qui veut démarrer? David, merci.
Oui, ça marche. Oui. Oui, non, à mon avis, il y a quand même trois pistes sur lesquelles il faudrait réussir à avancer. C'est que je vais essayer de donner des éléments de réponse à madame. C'est que un des problèmes, c'est qu'effectivement, l'instabilité des documents d'urbanisme, aussi ce que disait Christina, c'est-à-dire les PLU systématiquement en révision, l'absence d'indications sur des trames urbaines dans les PLU, qui restent des documents finalement qui restent le plus ouverts possible. Pourquoi? Pour avoir les opportunités programmatiques les plus ouvertes possibles. C'est moi ce que j'appelle le mécano des giratoires. Donc maintenant, on fabrique un giratoire et puis le plus offrant va venir se greffer, vous promener. C'est ce que vous voyez. Donc effectivement, il y a une première chose, c'est que les documents d'urbanisme donnent plus d'indications sur un certain nombre de principes de tramvière, ce qui ne veut pas forcément dire que c'est figé dans le marbre, mais que ça permet quand même d'organiser une certaine souplesse du marché foncier et de la programmation par rapport à ça, et une façon finalement de raccrocher les choses les unes aux autres, et donc pas toujours d'avoir des archipels qui partent dans tous les sens. La seconde question qui est liée à ça, c'est effectivement stabiliser les limites. Pourquoi stabiliser les limites? Parce que ce que vous dites sur les fils d'agriculteurs qui deviennent des spéculateurs, c'est de facto, c'est parce que là aussi il y a une très grande instabilité. Les espaces ouverts donc devraient être identifiés, stabilisés, soit pour faire de l'agriculture périurbaine, c'est des choses dont on parle, soit pour faire des parcs autour duquel on pourrait construire beaucoup plus dense, puisqu'il y aurait un élément qui fait relativement consensus, des vrais parcs, je ne parle pas des parcs dont je parlais tout à l'heure, et donc cette question des limites entre l'agricole et le résidentiel ou d'autres formes d'espace ouvert, d'espace naturel, c'est évidemment une des choses qui doit être définie. Et là aussi, les SCOT, d'une certaine manière, sont pas non plus des outils extrêmement performants, puisque bon, ils permettent de décliner des bonnes intentions et peut-être d'identifier un certain nombre de choses sur l'environnement, mais pas beaucoup plus. Enfin, troisième piste par rapport à la question de y a-t-il du foncier ou pas, et il y a deux pistes sur le foncier, c'est la densification. Moi, je préfère parler de densification plutôt que de densité, même dans les comparaisons qu'on commence à bien identifier, mais enfin, le travail pédagogique sur la densité, mais qui est assez difficile à faire. En revanche, donner des opportunités. On a construit des lotissements à 500 000 m² de la parcelle. Il y a maintenant une seconde génération qui voudrait bien pouvoir, dont la situation économique a changé, la situation familiale peut changer, la situation générationnelle peut changer, et il y a effectivement des stratégies gagnant-gagnant à permettre aux gens de construire sur leur parcelle 100 mètres carrés de plus, voire de construire un garage, voire de bricoler pour faire un revenu de salaire et d'introduire la mixité fonctionnelle, qui est déjà beaucoup et qui finalement est plus efficace pour commencer à avoir de la mixité sociale, c'est de pouvoir avoir un garage des artisans ou dans des lotissements. Et c'est comme ça que la ville se fait. En fait, elle passe par l'étape du faubourg et dans des densifications progressives. Alors pour le moment, il y a effectivement une situation extraordinairement figée. C'est frappant à quel point, bon, c'est la jalousie. Les gens ont une demande, ils vont peut-être aller voir le maire, ils vont lui dire ah ben, est-ce que vous pourriez changer le PLU pour qu'on puisse construire une seconde maison pour notre enfant, sinon il est obligé de partir au troisième couronne et d'acheter deux voitures, etc. Et là, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à débloquer, enfin vous êtes mieux placé que moi pour répondre, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à débloquer le système d'une densification ? Alors, y compris, autre piste plus ambitieuse, c'est par exemple ce qu'on a essayé de regarder sur la métropole parisienne, c'est qu'il y a des endroits où on n'imagine pas construire aussi par habitude. Je parle par exemple des parkings de supermarchés, par exemple, qui tout est calibré pour le samedi après-midi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont calibrées pour le samedi après-midi et qui, en fait, bon, là aussi, on voit des évolutions. Donc, évidemment, c'est un travail que je qualifierais d'un peu idéologique sur les valeurs urbaines, qui fait que progressivement, au moment où il y a conjonction entre des demandes économiques et sociales, on sait pouvoir avoir une réponse. Donc, transformation des voiries, on peut gagner du terrain, c'est bien connu, on fait des mutations sur les systèmes d'échange, sur les changeurs. Transformation de foncier dit non constructible ou supposé non constructible, et on peut aussi trouver un foncier. Donc quand je disais l'exemple, il y a du foncier, c'est pas ce que je... C'est oui, pas exactement ça que je voulais dire.
Oui, par rapport au foncier, c'est vrai qu'il y a différentes procédures envisageables, que ce soit les ZAD, les préemptions, les DUP, les bails emphytéotiques, etc. Bon, nous, on est architecte urbaniste, ce n'est pas de notre ressort. Hein, mais par contre, en tant qu'architecte urbaniste, on peut aider effectivement à trouver des lieux, à identifier des lieux dans lesquels on peut construire. C'est-à-dire qu'on a... C'est dans notre métier, disons, d'identifier des possibilités. Et je trouve que les PLU, malheureusement, sont souvent très mal faits. Parce que les PLU, on n'a fait que du copier-coller par rapport à des POS. Or, le PLU est un outil qui permet d'analyser parcelle par parcelle les possibilités qui peuvent être données donc à un site pour évoluer, pour devenir plus dense. Et là, je trouve que c'est dommage parce que la plupart du temps, ces PLU étant sous-payés et étant faits par quelquefois des géomètres ou des bureaux d'études qui font des PLU à l'appel, c'est-à-dire qu'en fait, ils font un PADD dans lequel tout le monde se fait plaisir parce qu'on définit des grands objectifs de développement durable sur lesquels tout le monde peut être d'accord. Mais après, on reprend le règlement qui était dans le poste antérieur. Et ça, c'est une catastrophe, parce que l'objectif du PLU, c'était de faire du projet urbain. Et je vais citer qu'un exemple que l'on retrouve dans pratiquement tous les PLU, c'est les distances par rapport aux limites séparatives. C'est une absurdité totale. Récemment, j'ai fait une étude de faisabilité en face de la mairie des Lilas à Paris, où, sur une parcelle où il y avait une construction, aujourd'hui, on pouvait construire moins qu'il y a 300 ans. Alors qu'on est à la sortie du métro, parce qu'il y avait 8 mètres par rapport à la limite séparative, alors que les parcelles font toutes 12 mètres dans le coin. Donc c'est impossible, c'est absurde, quoi. Et c'est des règles que personne ne regarde. C'est-à-dire qu'après, c'est technique. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour les élus, ce qui est politique et intéressant, c'est le PADD, parce que ça, là, on définit des grands objectifs, on se fait plaisir, mais personne ne va regarder ce qu'il y a dans les textes au niveau de la réglementation. Or, c'est ça qu'il faut regarder, parce que c'est là qu'on se donne les droits à bâtir. C'est à travers les règlements qu'on les détermine. Et nous, très souvent, en tant qu'architecte, on arrive, c'est trop tard. On nous donne un terrain, bon, on ne peut que constater que c'est inconstructible ou qu'on peut construire très, avec une densité très inférieure à celle qui pourrait s'intégrer dans le lieu.
Merci. On va reprendre des questions, 3-4, parce qu'après, allez-y. Merci, Philippe.
Bonjour. Pour aller dans le sens de ce qu'a dit Monsieur Mangin tout à l'heure, il y a les schémas directeurs qui existent, accompagné des SDO, vous devez le savoir, concernant donc la visualité au niveau du futur pour l'extension de, du bâti. Autrefois, il existait les parnus. Vous avez dû connaître ça. Parce que moi, je suis un vieux praticien, ça ne se voit pas. Concernant, vous avez dit la fondation de l'abbé Pierre, 6 millions. Je viens des cités de l'abbé Pierre. J'en rougis pas. À l'époque, on faisait des constructions très sommaires pour que les gens aient un toit et qu'ils ne couchent pas dehors. Et moi, je remercie l'abbé Pierre de ce qu'il a fait. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxièmement, je suis en relation avec M. Migaud, le député. Donc, je ne parle pas de couleur politique. Je sais que les gens, en général, en France, sont passifs. C'est-à-dire que on les enferme dans des règles, vous l'avez dit tout à l'heure, madame, il existe le plafond de densité avec le dépassement du PLD. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent vont pouvoir construire plus que ceux qui n'en ont pas en payant une taxe. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Vous avez également parlé donc du prospect par rapport à la limite pour les élévations. On va pousser des gens à faire d'éventuels groupes d'habitation sur la longueur alors qu'il aurait pu les faire en élévation. Vous êtes d'accord pour le moment ? Je n'ai pas fini. J'ai été lotisseur en 1980. J'avais 400 terrains à bâtir. Donc je sais ce que c'est que des citoyens qui veulent construire des maisons. Et à chaque fois que quelqu'un, et je viens des cités de l'abbé Pierre, quelqu'un veut construire une maison, plus elle est grande, mieux il se porte. Et si jamais il peut même faire une location interne, il ne va pas se gêner. Alors je veux dire, il faut arrêter de sortir le roman, Émile Zola, Les Misérables, etc. Tout à l'heure, monsieur du corps social actif donc a parlé, et je suis d'accord avec sa passion, je suis désolé, sur le fait qu'effectivement, la densité, c'était quelque chose qui était arbitraire. Mais il faut prendre en compte sur la région, puisque là, aujourd'hui, je suis à Grenoble, il y a les zones à risque qui vont limiter la constructibilité. Un jour, on va découvrir dans une autre région de la France que ce sont des zones inondables. Et après, c'est le bureau des pleurs. On va pleurer auprès des assurances parce qu'une construction a pu être édifiée. Enfin, voilà. Donc, il y a un peu de révolte. Au passage, pour le maire de Bagnols-sous-Forez, là, je voulais lui dire que c'est une très belle commune qui a une magnifique chapelle en face d'un grand terrain. Et là, je, sincèrement, en tant que...
Que lotisseur.
Amoureux des belles choses. Parce que ça n'empêche pas d'être amoureux des belles choses. Il y a un grand terrain en face de la chapelle. Alors là, son problème... C'est ou de faire des logements sociaux ou de faire un terrain de stationnement pour les cars. Donc je vais le voir tout à l'heure et puis il me dira sa tendance. Également, il a un grand peintre dans sa commune qui est à côté de Malpassé. Voilà.
Merci.
J'espère que ça va passer.
Il va peut-être surélever la chapelle, hein, on ne sait pas. Bon. Deux questions encore, voire trois, et puis on arrête. Il y avait madame au centre, là, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais évoquer les problèmes de gouvernance là,
oui. Et démocratie. Vous présenter éventuellement, c'est pas une obligation.
Michel Delafosse, responsable associatif. Voilà, beaucoup des, on ne peut qu'être d'accord avec les conclusions de nos intervenants. Le problème, c'est y a-t-il une autorité pour décider cela ? Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas. On a bien compris qu'à l'échelon où ces problèmes se posent, d'habitat, je parle de l'habitat surtout, hein, il n'y a pas d'autorité politique suffisamment légitime pour prendre une décision. Voilà. Donc on est bien là au cœur du problème, naturellement. Et donc on est renvoyé aux nécessités de réforme. Nous sommes tous d'accord à peu près sur les réformes nécessaires. À peu près, il faut renforcer les agglos, les rendre plus fortes, plus légitimes, et renforcer les régions pour les rendre plus compétentes encore. Bon. Donc moi, la vraie question qui m'intéresse, c'est la suivante. C'est comment faire aboutir ces réformes ? Comment les faire aboutir ? Alors moi, je vois deux solutions. Mais, et en même temps, je souhaiterais que cette question soit vraiment un objet de colloque. Parce qu'on parle très facilement du contenu des réformes pour les critiquer, mais on ne parle pas suffisamment de la façon de les faire aboutir. Moi, je ne vois que deux méthodes. La première, c'est, je dirais, la rupture. Modèle 81, ou bien un référendum imposé, où le peuple puisse décider contre ses représentants. Et puis la deuxième méthode, peut-être, c'est de dire que ces réformes indispensables, elles s'appliqueront en 2025, lorsque les élus en place ne seront plus là. et ça donne un objectif cible auquel chacun peut se préparer. Donc moi, j'aurais vraiment envie d'approfondir un petit peu ces pistes du comment, parce que j'ai beaucoup aimé Christina Conrad dans la conclusion et il faut une politique d'habitat volontaire et social. Mais écoutez, je suis désolé, dans l'agglomération de Grenoble, comme dans beaucoup d'autres, il n'y a pas d'autorité politique qui ait la légitimité et la volonté de le faire. Même si en même temps, je termine par là, parce qu'il ne faut pas que mes propos soient mal compris, non. Tout le monde a envie de bien faire. Tout le monde peut mettre en avant ce qu'il fait dans son coin. Mais en même temps, mettre en avant ce que les autres ne peuvent pas faire. Pour dire simplement, pour financer un logement social, peut-être il y a parfois entre 7 à 10 financeurs. Chacun peut faire son travail, mais en même temps rejeter la responsabilité de ce qui ne se fait pas sur les autres. Donc le problème essentiel, et c'est le thème de la question, c'est démocratie. Est-ce qu'on pense que dans une agglo où les responsables seraient élus au suffrage universel, les citoyens pourraient vraiment imposer un bon débat et des bonnes solutions sur le sujet essentiel, qui habite où et comment et ensemble?
Merci, bravo. Madame.
Marie-Yvonne Boileau, j'étais élue majoritaire à Grenoble dans le dernier mandat. Je suis élue de l'opposition. Dans ce nouveau mandat, je suis écologiste. Vous dites territoire, répartir la démocratie. On a peu entendu dans vos différents propos, et y compris dans les derniers propos qui ont été dits par la salle, quelle part vous vouliez accorder ou que vous pensiez souhaitable d'accorder à la population, aux gens, comment ils peuvent participer à l'élaboration de l'aménagement de ces territoires et aussi parfois, c'est vrai, ça vient heurter le temps des mandats, mais on a pu s'apercevoir dans les derniers mandats que nous avons eus qu'en les faisant participer, il y avait une volonté très forte de la part de la population d'aller dans les réunions qui sont proposées. Donc là, on vous a peu entendu sur ces questions-là.
On peut pas les. C'est moi qui avais un peu cadré le débat volontairement, mais je vous ai tout à fait raison.
Oui.
Est-ce que mais ils ont des choses à dire, ils vont les dire. Dernière question, Yves Cabanne qui est intervenu
oui,
tout à l'heure.
Oui, j'ai le micro, je vais en profiter.
Excusez-moi.
C'était juste une remarque quand on parlait du foncier. Par exemple, sur Genève, dès les années 50, on a fixé le nombre d'hectares nécessaires pour que l'agriculture soit viable sur le canton de Genève. Et en fait, l'urbanisation s'est faite en respectant cette quantité. En France, au contraire, on considère que l'espace rural, l'espace agricole, est un espace urbanisable. Et donc, on arrive au mitage, on arrive au lotissement. Alors que si vous allez dans le canton de Genève, il n'y a pas ce genre d'urbanisation.
Yves Cabanne, et puis, sauf s'il y avait une... Non. Yves Cabanne, le dernier. Voilà.
Bien. Moi, mes observations, c'est d'un non-résident en France depuis 30 ans. Donc, mes observations, c'est vu un peu de l'extérieur. La première observation, c'est qu'effectivement, la question que vous posez sur la densité, si vous regardez les derniers rapports mondiaux, c'est une des grosses questions qu'on se pose actuellement. Et le modèle que je découvre, c'est contraire à n'importe quel modèle, non seulement social, mais aussi écologique. Ça, c'est pas viable. Là, ça, c'est une confirmation. Donc, ce que vous vous posez, vous n'êtes pas les seuls. Et la question de la densification que vous souleviez est absolument claire. Moi, ce qui me surprend, et je voudrais vous poser la question autour de cela, c'est que vous parlez du logement, mais du logement où on habite, où on réside. Et une des questions sur laquelle on est maintenant, c'est que si le logement, avec le travail à domicile, avec les nouvelles formes d'emploi, avec la crise écologique, les lieux de résidence tendent à devenir des lieux de production agricole. Une ville comme Londres consomme 80% de ce, 80% de ce qui se consomme à Londres vient de l'étranger. Et aujourd'hui, le débat sur les villes vertes, sur la production et la création d'emplois, des maraîchers, d'avoir des zones comme ça, est complètement central. Puisque les prix alimentaires ont doublé l'an dernier, ce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, et donc l'exclusion, elle vient aussi par les aliments. Donc je ne vous ai pas entendu parler sur le travail à domicile, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la production que vous proposez. L'alimentation, la création d'emplois, et donc on se retrouve avec un concept de logement qui pour moi est encore le logement où on dort. Et ça ne fait pas du tout écho à ce qui se fait, alors que j'ai l'impression, si vous appeliez mixité fonctionnelle, si vous aviez pu en parler, comment vous vous considérez dans ce que vous présentiez la question quand même que, non seulement en France mais ailleurs, le nombre de logements vacants est supérieur à la demande. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de ces logements vacants ? Que la crise va commencer, va continuer à élever. Comment vous l'abordez ? Et la troisième chose sur laquelle j'aurais bien aimé avoir vos échos, c'est que je suis dans les jurys sur le prix mondial de l'habitat, d'urbanisme, qui sont pour les pays développés et les pays non développés. Et une des tendances sur lesquelles il y a maintenant pas mal de choses intéressantes, c'est quand même que la participation des habitants à la conception des logements se fait, et j'en ai pas entendu parler, on est encore avec un modèle qui est celui des développeurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose ? Parce que là, par contre, vraiment, vous êtes en retard par rapport aux prix qui se font, par rapport aux cités écologiques auto-gérées, et la participation des habitants, si elle n'est pas depuis le début, elle produit ce dont vous parlez, quoi. Donc, comment vous réagissez à cela ? Merci.
Très bien. Ben, on voit que les dernières questions portent sur la question politique, à la fois le lien entre les politiques et les citoyens. Mais je ne reviens pas là-dessus, mais notre culture politique, elle a une histoire. Ce n'est pas pour rien qu'on est en retard. Hein.
Oui, bon, par rapport... On entend, là ? Bon, par rapport à la participation des habitants, effectivement, on ne s'est pas étendu, ce n'était pas tellement l'objet de l'exposé. Mais c'est vrai, d'une part, que les PLU sont une occasion formidable de débattre de l'ensemble des projets urbains sur la ville à grande échelle. Après, effectivement, il y a des villes qui ont mis en place des conseils de quartier, comme Rennes, où chaque projet est débattu dans ces conseils de quartier. Mais c'est vrai qu'en France, on est très en retard sur la participation des habitants. Il y a des moyens simples dans des pays européens, par exemple en Autriche. Les prêts à taux zéro ne sont donnés aux familles que si elles ont un projet à plus de 10 familles et si leurs parcelles font moins de 350 mètres carrés. Ce qui fait que la plupart du temps, donc il y a un travail qui se fait de façon très conviviale. Ça oblige aussi les architectes, c'est très intéressant, à réfléchir à d'autres façons de construire, puisqu'on a affaire à 10 familles différentes qui chacune veulent avoir un projet différent. Donc ça amène des systèmes constructifs beaucoup plus souples, et c'est pour ça qu'on a aussi des constructions avec du bois, par exemple, parce que ça permet une souplesse plus grande que le tout béton qu'on a en France. Il y a des tas, c'est vrai qu'il y aurait au niveau expérimental beaucoup de choses à faire en France, et on pourrait s'inspirer de ce qui existe dans les autres pays, que ce soit en Hollande, en Danemark, en Autriche. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes, comme par exemple des quartiers où l'habitat et le travail sont faits ensemble, c'est-à-dire que tous les gens qui viennent habiter s'engagent à travailler, donc c'est dans le même quartier, c'est-à-dire il y a des artisans, des commerçants, des professions libérales, tout ça est mélangé. Il y a plein d'expérimentations que l'on pourrait reprendre en France, mais pour ça il faut qu'il y ait des élus qui aient envie de le faire. Hein. Par exemple, il y a également un autre quartier en Autriche que je trouve très intéressant, qui consiste à ce que les gens s'engagent. Bon, c'est bien situé dans la ville de Vienne, mais les gens s'engagent avec une charte à ne pas avoir de voiture. Donc tout l'argent qu'ils auraient mis dans la voiture, ils le mettent dans les équipements communs pour les enfants, pour les espaces publics, pour la végétation, etc. Donc ça fait des quartiers de 350-500 habitants, mais qui sont très intéressants parce qu'ils peuvent avoir une véritable vie de quartier très, très riche. Bon, voilà, je pense qu'effectivement, on aurait pu exposer sur ce sujet-là beaucoup de choses, mais notre propos, c'était justement de parler du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on a...
David, et on arrêtera.
Oui, rapidement, sur les questions de démocratie participative, représentative, c'est un sujet difficile sur lequel on est effectivement sûrement assez en retard, et puis j'ai compris que ce colloque était particulièrement avec des gens qui avaient réfléchi sur cette question-là.
Il y avait une table ronde avant, en plus.
Voilà. Bon, moi, simplement, je vais parler de l'expérience vue du côté professionnel. C'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que la démocratie participative est-elle représentative, grosso modo? Moi, je m'occupe des Halles, par exemple. Il y a 800 000 personnes qui passent sous les Halles et on a eu 50 réunions avec les utilisateurs des jeux d'enfants en surface. On n'a jamais su, la ville, la région n'a jamais su organiser, et qu'il y a même un lobby d'ailleurs, puisque c'est finalement souvent des questions de lobby, et pour faire avancer beaucoup plus rapidement les objectifs qu'on a et qu'on va faire pour partie de rénovation d'un endroit où 800 000 personnes tous les matins passent et qui est le sujet central. Donc c'est le premier élément, c'est ça, c'est que c'est, voilà, dès qu'on est dans des échelles métropolitaines, la question, elle est effectivement la légitimité d'une représentation politique élu, etc. Mais il y a aussi, après, comment fait-on ? Deuxième chose, tout le monde sait, enfin tous les professionnels savent que la difficulté du dialogue entre le projet et, enfin, entre des projets et les habitants, c'est que il y a une crise de la représentation, mais je dirais au sens formel du terme. C'est-à-dire, si vous venez avec des choses qui sont trop avancées, on vous dit, vous avez tout déjà décidé et vous vous foutez de nous. Et si vous venez en ne montrant pas grand-chose, on vous dit mais on nous cache tout, on nous dit rien. Donc on est toujours pris un peu dans cette difficulté. Quand les gens ont des projets communs sur l'habitat autogéré, etc., ça fonctionne évidemment beaucoup mieux. Sur la question que vous avez proposée, sur qu'on n'a pas évoqué sur domicile travail, est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge, mais de quelle façon? Moi, il me semble qu'un des problèmes aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que la maison individuelle fonctionne très bien, c'est parce qu'il y a le garage. Et le garage est une pièce supplémentaire dans laquelle les gens trouvent de quoi s'adapter. Il y a une flexibilité, y compris du travail, y compris l'ordinateur, y compris un débarras, etc. Et que un des problèmes, c'est que les logements sont beaucoup trop petits, y compris si on veut faire passer l'idée de densité, il va falloir aussi pouvoir avoir des logements plus confortables, pour parler clair, et qu'il y ait plus de souplesse. Je ne suis pas spécialiste du logement, mais enfin, on sait qu'une des raisons pour lesquelles il y a une crise du logement, c'est aussi la décohabitation, c'est-à-dire la structure familiale qui a beaucoup, beaucoup bougé. Donc là-dessus, il y a effectivement beaucoup de chantiers qui restent à ouvrir. Et dernier chantier, me semble-t-il, c'est la question des raids de ville. C'est-à-dire, on sait bien qu'on a beaucoup de mal, finalement, à faire marcher de nouveaux systèmes urbains, parce que la question des rez-de-chaussée est toujours très difficile à régler. Il n'y a pas d'offre commerciale suffisante. Donc je crois qu'il y a des expériences, notamment les Allemands font des expériences où ils essaient de faire des quartiers où ils laissent, où ils obligent à que progressivement il y ait des occupations de tous les rez-de-chaussée par des tas de, voilà, aux gens d'inventer, grosso modo, mais on se donne cette marge là.
Merci. Il y a donc un chantier ouvert, deux pistes. Un, on peut inciter nos élus à organiser un colloque sur ce thème, uniquement sur ce thème, donc réinviter les deux personnes qui sont là. Parce que je crois que ça a été dit par M. Lafaux, ça me paraît essentiel. Et pour pouvoir poursuivre en fonction de ce qui a été dit par nos deux amis, sur le blog République des idées, il y a des textes de Christina Conrad, surtout un long entretien dans Libération sur la politique du logement, très critique, qui avait suscité pas mal de réactions. Ça vous intéressera. Et puis, je ne l'ai pas dit, je dis quand même, on a parlé de prix mondial, il y a des prix français. David Mangin a eu le Grand Prix de l'urbanisme en 2008. Ça a été l'occasion de faire ce livre qui s'appelle « La ville passante », son terme. Ceux qui veulent voir, en fonction de ce qu'il a dit, un centre de réalisation, comment il travaille et où, c'est, je crois, en vente à la librairie. Et merci, à bientôt.
S'il vous plaît, juste une petite information. Le Café des auteurs avec Anne Simonin et Roger Establet, en fait, a commencé. Ça devait être à 18h30, mais en fait, ça a commencé à 18h. Donc, il faut y courir. Voilà.